Introduction. C'est en retraçant les actes familiers de Don Carlos, mystérieusement enlevés par quelques sbires masqués, que le roman comique, 1651, évoque une scène de toilette. Le prisonnier est noble, le cadre est somptueux. Scarron décrit les gestes et les objets. La diligence du service, bien sûr, le faste de certains détails aussi, le chandelier de vermeil ciselé, par exemple, mais encore les marques de propreté. Or, celles-ci débordent de sens. Elles sont à la fois proches et totalement distantes des nôtres. Elles pourraient ressembler à certaines pratiques d'aujourd'hui et elles en sont pourtant très éloignées. L'intérêt de Scarron se polarise sur des indices devenus aujourd'hui accessoires et il glisse sur d'autres devenus au contraire essentiels. Des manques, surtout des imprécisions, comme si nos comportements les plus quotidiens étaient encore à inventer. Alors qu'ils ont pourtant ici quelques-uns de leurs équivalents. En particulier, le seul geste d'ablution cité est très concis. J'oubliais à vous dire que je crois qu'il se lava la bouche, car j'ai su qu'il avait grand soin de ses dents. L'attention à la propreté est centrée plus explicitement sur le linge de corps et sur l'habit. Le nain masqué se présenta pour le servir et lui fit prendre le plus beau linge du monde. Le mieux blanchi et le plus parfumé. Aucune évocation de l'eau dans l'ensemble de ces scènes, sinon de l'eau qui lave la bouche. L'attention à la propreté est faite pour le regard et l'odorat. Elle existe, quoi qu'il en soit, avec ses exigences, ses répétitions, ses repères, mais elle flatte d'abord l'apparence. La norme se dit et se montre. La différence avec aujourd'hui, toutefois, et qu'avant de se référer à la peau, elle se réfère au linge, l'objet le plus immédiatement visible. Cet exemple montre, à lui seul, qu'il est inutile de dénier l'existence des pratiques de propreté dans une culture pré-scientifique. Les normes, dans ce cas, ne sont pas issues d'un point zéro. Elles ont leurs ancrages et leurs objets. C'est leur changement à venir ou leur complexification qui sont plutôt à découvrir. C'est surtout leur lieu de manifestation et leur mode de transformation. Une histoire de la propreté doit donc d'abord illustrer comment s'additionnent lentement des exigences. Elle juxtapose des contraintes. Elle restitue un itinéraire dont la scène de Don Carlos ne serait qu'un des jalons. D'autres scènes, dans le temps, l'ont évidemment précédée, plus fruste encore, où le changement de chemise lui-même, par exemple, n'avait pas la même importance. Le linge en particulier n'est pas un objet d'attention fréquente, ni même un critère de distinction dans les scènes de réception royale décrites deux siècles auparavant par le roman de Jehan de Paris. La propreté reflète ici le processus de civilisation façonnant graduellement les sensations corporelles, aiguisant le raffinement, déliant leur subtilité. Cette histoire est celle du polissage de la conduite, celle aussi d'un accroissement de l'espace privé ou de l'autocontrainte, soin de soi à soi, travail toujours plus serré entre l'intime et le social. Plus globalement, cette histoire est celle du poids progressif de la culture sur le monde des sensations immédiates. Elle traduit l'extension de leur spectre. Une propreté définie par l'ablution régulière du corps suppose, tout banalement, une plus grande différenciation perceptive et une plus grande autocontrainte qu'une propreté essentiellement définie par le changement et la blancheur du linge. Encore faut-il, pour engager cette même histoire, faire taire nos propres points de repère, reconnaître une propreté dans des conduites aujourd'hui oubliées. La toilette sèche du courtisan, par exemple, frottant son visage avec un linge blanc au lieu de le laver, répond à une norme de netteté tout à fait raisonnée au XVIIe siècle. Elle est réfléchie, légitimée, alors qu'elle n'aurait guère de sens aujourd'hui. Sensations et explications ont changé. C'est cette sensibilité perdue qui est à retrouver. Encore faut-il aussi bouleverser la hiérarchie des catégories de référence. Ce ne sont pas les hygiénistes, par exemple, qui dictent les critères de propreté au XVIIe siècle, mais les auteurs des livres de bienséance, les praticiens des mœurs, et non les savants. À la lente accumulation des contraintes, s'associe le déplacement des savoirs dont elles relèvent. Il reste que représenter ce processus comme une succession d'ajouts, ou comme une sommation de pressions exercées sur le corps, risque d'être artificiel. Il ne peut y avoir simple addition de contraintes. Ce que montre une telle histoire, c'est qu'il lui faut aussi se conjuguer à d'autres histoires. La propreté compose nécessairement avec les images du corps, avec celles, plus ou moins obscures, des enveloppes corporelles, avec celles, plus opaques encore, du milieu physique. C'est parce que l'eau, par exemple, est perçue, au XVIe et au XVIIe siècle, comme capable de s'infiltrer dans le corps, que le bain a, au même moment, un statut très spécifique. L'eau chaude en particulier est supposée fragiliser les organes, laissant les pores béants aux airs malsains. Il existe donc un imaginaire du corps, il a son histoire et ses déterminants. Lui aussi alimente la sensibilité. Les normes ont à jouer avec lui. Elles ne peuvent, en tout cas, se transformer sans lui. Elles travaillent un terrain, lui-même déjà polarisé. Ce n'est jamais passivement que le corps est habité par elles. Il faut même que changent les images de celui-ci pour que puissent se déplacer les contraintes. Il faut que se transforment les représentations latentes du corps, par exemple celles qui dictent ses fonctionnements ou ses efficacités. Dans ce cas, une histoire de la propreté corporelle met en jeu une histoire plus large et plus complexe. C'est que toutes ces représentations donnant au corps ses limites, profilant ses apparences ou suggérant ses mécanismes internes ont d'abord un terrain social. La propreté, au XVIIe siècle, attachée essentiellement au linge et à l'apparence immédiate, par exemple celle qui s'investit dans l'apparat des objets ou dans le détail des signes vestimentaires, est bien sûr très différente de celle qui, plus tard, s'investit dans la préservation des organismes ou la défense des populations. Exactement d'ailleurs comme une société de cour, valorisant les critères aristocratiques de l'apparence et du spectacle, est différente d'une société bourgeoise, plus sensible à la force physique et démographique des nations. Un investissement sur une apparence toute extérieure se déplace vers une attention plus complexe aux ressources physiques, aux résistances, aux vigueurs cachées. Une histoire de la propreté corporelle est donc aussi une histoire sociale. C'est enfin le sens large du mot « propreté » qui est ici retenu. Celui qui mobilise l'ensemble du corps ou l'ensemble des objets susceptibles d'en tenir lieu. Première partie, de l'eau festive à l'eau inquiétante. L'eau qui s'infiltre. En 1546, Barcelone, atteinte par la peste, n'est plus ravitaillée. Villes et villages voisins, redoutant la contagion, refusent toute liaison et tout commerce. Puis, les navires que le Conseil des 500 envoie à Majorque pour obtenir un hypothétique ravitaillement sont repoussés au canon. De tels épisodes se reproduiront. Le contact, à la fin du Moyen-Âge et à l'époque classique, apparaît clairement comme un risque majeur en cas d'épidémie. La fuite traditionnelle hors des villes infectées devient à son tour périlleuse. Elle confronte à un voisinage susceptible de violences ouvertes. Les fuyards de Lyon en 1628, poursuivis à coups de pierre par les paysans, sont condamnés à errer ou à réintégrer leur cité. Les habitants de Digne, en 1629, tenus par un arrêt du Parlement d'Aix à demeurer dans leurs enceintes, sont placés sous le contrôle d'une ceinture de garde armée par les communautés voisines. Celle-ci menace d'incendier la ville en cas de franchissement. Les cités victimes de pestilence deviennent des pièges condamnés à l'horreur. Dans ces collectivités temporairement closes sur leur épouvante, les interdits extérieurs accélèrent la constitution de règlements internes, ne serait-ce ici encore que pour cantonner la tragédie. Les décisions des maires, échevins ou prévôts des marchands concernent l'hygiène sociale. Les contacts sont progressivement limités, certains lieux cloisonnés ou condamnés. La salle légat de l'Hôtel Dieu est, par exemple, séparée et aménagée en 1584 pour ne recevoir que les pestiférés. Dans bien des villes, les notaires ne peuvent approcher les maisons atteintes. Les testaments se dictent à distance, devant témoins et du haut des étages. Les conseils concernent aussi l'hygiène individuelle. Supprimer les communications, c'est supprimer toute pratique risquant d'ouvrir les corps à l'air infectieux, comme le travail violent qui échauffe les membres, la chaleur qui relâche la peau, et aussi le bain. Le liquide, par sa pression et surtout par sa chaleur, peut en effet ouvrir les pores et focaliser les dangers. La lutte contre la peste révèle, dans ce cas, des représentations totalement distantes des nôtres. L'eau serait susceptible d'infiltrer la peau, ce qui pourrait infléchir les pratiques de propreté. C'est une méfiance identique qui conduit à suspendre la fréquentation des écoles, des églises, des étuves et des bains. Il faut cantonner les échanges et donc les transmissions possibles. Dans le cas des bains, la dynamique du cloisonnement touche toutefois à l'image même du corps et à celle de ses fonctionnements. Les médecins, en temps de peste, dénoncent depuis le XVe siècle ces établissements où se côtoient des corps nus. Les gens déjà attaqués de maladies contagieuses peuvent y créer d'inquiétants amalgames. Des diffusions peuvent s'y produire. Étuves et bains, je vous en prie, fuyez-les, vous en mourrez. Ces décisions seront d'abord hésitantes. Départ, lors de la peste de 1450, réclame vainement des échevins de Paris l'interdit des étuves. Il n'obtient que la colère des étuvistes. C'est même sous leur menace directe qu'il doit précipitamment s'exiler à Tournai. La fermeture temporaire est répétée à chaque épidémie s'imposera pourtant dans la logique des cloisonnements. Au XVIe siècle, cette fermeture devient officielle et systématique. L'ordonnance du prévôt de Paris, renouvelée plusieurs fois entre les pestes de 1510 et 1561, défend à chacun d'aller aux étuves et aux étuvistes de chauffer leurs étuves qu'après la Noël prochaine, à peine d'amende arbitraire. Une décision identique est prise dans un nombre croissant de villes. Elle se généralise. Acquise à Rouen en 1510, à Besançon en 1540, elle existe déjà à Dijon depuis la fin du XVe siècle. Dans la plupart des épidémies, c'est durant la saison chaude, favorable aux vagues de pestilence, que se prononce l'interdit. La béance de la peau. Pourquoi attribuer une signification historique à de telles prohibitions? C'est qu'au-delà de la crainte des contacts, bien d'autres peurs sont en jeu, celle, entre autres, d'une faiblesse des enveloppes corporelles. Il s'agit de dénoncer la porosité de la peau. Comme si des ouvertures innombrables devenaient possibles, les surfaces étant défaillantes et les frontières douteuses. Au-delà du seul refus des contiguïtés, s'impose une image très spécifique du corps. La chaleur et l'eau ne feraient qu'engendrer des fissures. La peste, enfin, n'aurait qu'à s'y glisser. Il s'agit de représentations marquantes, datées, dont les conséquences sur l'hygiène classique restent à mesurer. C'est en cela que les prohibitions évoquées redoublent de sens. Le bain et l'étuve sont dangereux parce qu'ils ouvrent le corps à l'air. Ils exercent une action quasi mécanique sur les pores, exposant ainsi, pour quelque temps, les organes aux quatre vents. Ce n'est plus le toucher ou un principe de proximité qui sont en question, mais un principe de béance. L'organisme baigné résiste moins au venin parce qu'il lui est plus offert. Il demeure comme perméable. L'air infect menace de s'engouffrer en lui de toutes parts. Ils doivent défendre les étuves et les bains, en raison qu'après qu'on en est sorti, la chair et l'habitude du corps en est ramollie, et les pores ouverts, et partant, la vapeur pestiférée peut entrer promptement dedans le corps et faire mourir subitement, ce qu'on a vu plusieurs fois. Ambroise Paré, 1585.